RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Tour de France qui a donc pris son envol ce matin, son envol de Porto Vecchio au sud de l'île de Beauté, direction Bastia, au nord de l'île de Beauté pour la première étape, 213 km. Oh, il ne s'est pas passé grand-chose, en tous les cas, pendant 200 km, car les dernières bornes de cette première étape ont été très mouvementées. On va évidemment en reparler dans quelques instants avec Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, et vous également au 32-16. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis, les thèmes des débats, l'organisation est-elle bien gérée cette situation d'urgence. On verra également dans quel état se trouve Alberto Contador qui a été victime de la chute tout à l'heure. Il est touché à l'épaule, nous dit-on. Et puis on se demandera si Marcel Kittel sera toujours en jaune demain soir. Lui qui a fait coup double, coup triple, coup quadruple aujourd'hui en décrochant la victoire d'étape, le maillot jaune, le maillot vert et le maillot blanc de meilleur jeune. Mais avant cela, avant nos débats, c'est l'heure du journal des sports.
RMC Sport.
Et Jean-Louis Tour est évidemment là pour la deuxième édition du Journal des Sports. Bonsoir Jean-Louis.
Salut Christophe.
On va évidemment revenir sur cette arrivée plus que mouvementée de cette première étape.
Ah oui, un final inédit, un final surréaliste sur le Tour pour la première étape. La victoire de l'Allemand Kittel éclipsée par ce final rocambolesque. Le bus de l'équipe Orica qui déplace un temps l'arrivée, du coup de la nervosité, de nombreuses chutes dans le peloton que déplore Jérôme Pinault, le coureur d'Omega Pharma Quickstep et le coéquipier de Mark Cavendish, favori du sprint mais retardé par les chutes.
C'est une étape typique de la première étape du Tour de France, des chutes, un bus qui reste bloqué là. On a entendu arriver 2 km, après 2-3 km. Mais la nervosité, elle est aussi créée par ceux qui ont peur que ce soit nerveux. On a vu des équipes de leaders frotter, on les voit pas de l'année. Là, ils viennent frotter dans les 10 derniers kilomètres. Bon ben voilà, hein, ça fait badaboum. Quand on fait 20 courses par an et qu'on venait à frotter sur le Tour de France, ben on tombe.
Jérôme Pinault avec Pierre-Yves Leroux, l'un des envoyés spéciaux d'RMC Sport sur la grande boucle. Le Tour de France, ça continue sur RMC dans un instant. L'intégral Tour jusqu'à 20h avec Christophe Cessieux et toute la Dream Team RMC Sport. Lui aussi a gagné un sprint en quelque sorte. C'est Lewis Hamilton, pole position arrachée dans les dernières secondes de la qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne cet après-midi. Vous l'avez suivi sur RMC. Il devance son coéquipier chez Mercedes, Nico Rosberg et les deux Red Bull. Et côté français, Romain Grosjean partira 8e, mais il croit à un retournement de situation demain.
Je crois que la course peut réserver des surprises. On a vu hier sur les longs relais des problèmes de graining du pneu avant gauche, c'est-à-dire que la gomme se décolle de la surface du pneu et on la perd. Quand on la perd, on perd de la température, on perd du grip, on perd de la température. Enfin, c'est un cercle vicieux qu'il faut essayer de casser. Donc ça, c'est vraiment des réglages. Maintenant, c'est plus que des réglages d'aileron avant pour essayer de sauver ces gommes. Et puis ensuite, on verra. Maintenant, demain, il fera un peu plus chaud, je l'espère, et j'espère que ça ira dans l'autre sens.
Romain Grosjean avec Antoine Arlon, envoyé spécial RMC Sport à Silverstone. La course à vivre en intégralité demain dès 14h sur RMC. En tennis à Wimbledon, la surprise s'appelle Kenny DeSchepper. Le français sera en deuxième semaine, en huitième de finale après sa qualification face à Juan Monaco en 3-7. C'est terminé en revanche pour Benoît Paire et Richard Gasquet, battu par l'Australien Bernard Tomic.
C'est un des plus grands tournois du monde, c'est Wimbledon, donc c'est sûr qu'il y a la déception, on aura perdu aujourd'hui, c'est vrai qu'il manquait très peu de choses, ça s'est joué à pas grand chose, voilà, ça n'a pas tourné de mon côté, on sait que sur le gazon ça se joue à des détails, il a très bien servi, mais moi aussi, donc ouais, je pense que je peux être un peu plus performant en retour de temps à autre, mais bon, c'est vrai que son jeu sur gazon est difficile à jouer, et il a franchement fait un super match, quoi.
Richard Gasquet avec Eric Salio, Wimbledon pour RMC Sport, dernier français engagé, Jérémy Chardy défiera dans quelques minutes la montagne Novak Djokovic, l'un est indestructible, l'autre est éternel, c'est en moto. L'indestructible, c'est Jorge Lorenzo. Il s'est fracturé la clavicule jeudi et a pris la 5e place tout de même aujourd'hui du Grand Prix des Pays-Bas. La victoire, Vincent Delzesco, bonsoir.
Bonsoir Jean-Louis.
C'est pour l'éternel. L'éternel, c'est Valentino Rossi.
Ouais, tout à fait. À 34 ans, il n'avait plus remporté un Grand Prix depuis 2010. C'est dire, il avait déjà montré l'écrou ce matin avant la course en réalisant le meilleur temps du warm-up sur la grille de départ. Il était aligné en 4e position, Valentino Rossi, mais il n'a eu besoin que de quelques tours pour prendre la tête de la course et ne plus la lâcher. Une performance d'autant plus admirable que la concurrence était rude aux avant-postes. Cal Crutchlow parti en pole position, Marc Marquez, Stefan Bradl ou encore Dani Pedrosa, même Jorge Lorenzo, vous le disiez, blessé, s'est invité dans les débats. Alors au final, The Doctor a été chirurgical. Il a rapidement pris une seconde et demie environ à ses concurrents. Marquez et Crutchlow n'avaient plus que la deuxième place à se mettre sous la dent. Cette victoire a donc un goût de retour aux affaires pour celui qui signe la 67e victoire de sa carrière et confirme sa place d'actuel 5e au classement général.
Vincent Delzesco qui vous a fait vivre cette course cet après-midi sur RMC. Autre événement à vivre ce soir à 20h50, c'est du football féminin. L'équipe de France affronte la Norvège à Reims. Ce sera sous les yeux de Nicolas Paul Orsi. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous.
Les Bleus lancent leur préparation en vue des championnats d'Europe.
Ouais, elles ont déjà un pied à l'Euro, les Bleus. La compétition débute dans 10 jours en Suède avec un objectif capital cette fois. On ne veut pas laisser passer la victoire après la déception des Jeux Olympiques. Les Françaises seront les favorites de l'épreuve avec seulement 2 matchs de préparation dans les jambes. Alors l'adversaire de ce soir, c'est la Norvège, une solide nation du foot féminin pour bien lancer cette préparation. Bruno Billy a donc fait confiance au cadre. Sandrine Souveron, Louise Anne-Philippe, Tania Billy et Gaëtan Kinel seront toutes titulaires. La seule absente, c'est Wendy Renard, la défenseuse centrale. Elle a un léger virus, on n'a pas pris de risque du côté du staff technique. La préparation de l'équipe de France débute donc ce soir à Reims. Coup d'envoi 20h50 face à la Norvège.
Merci Nicolas Paul. Orsi à Reims pour RMC Sport. Au rayon transfert, toujours en football. Après un an sans jouer, Jérôme Leroy s'est engagé en Ligue 2 à Istres. Il est âgé de 38 ans, 5 de plus que Marama Vahirua qui a annoncé aujourd'hui qu'il mettait un terme à sa carrière. Le mercato en temps réel, c'est sur rmc.fr, mais aussi tout à l'heure dans l'after à 21h, horaire estival avec Jean-François Pérez. Enfin, je vous rappelle l'exploit de l'équipe de France de volleyball qui s'est imposé 3-7 à 1 à Sao Paulo face au Brésil. Et puis en NBA, ça vient de tomber, Boris Diaw va rester une saison supplémentaire aux Spurs de San Antonio. 19h12 sur RMC, l'intégral tour avec Christophe Sessieux.
Et oui, l'intégral tour est de retour. Merci Jean-Louis. À demain pour une nouvelle édition du Journal des Sports, évidemment 18h et 19h. Nous sommes donc de retour ici à Bastia, lieu d'arrivée de cette première étape du Tour de France. Première étape également en Corse, vous le savez, pour la 100e édition. Eh bien, le Tour de France a décidé de visiter le dernier département qui n'avait jamais été visité. C'est incroyable. Jamais visité par le Tour de France. Eh bien, la Corse fait la fête pendant 3 jours à la Grande Boucle avec donc cette première étape entre Porto Vecchio et Bastia. Nous sommes avec toute la Dream Team pour discuter de cette première étape qui a connu en fait deux visages. Le visage tranquille de la première partie jusqu'à 15 kilomètres de l'arrivée et ensuite le final plus que chaotique dont on va reparler. Ils sont là de retour. Luc Leblanc, salut Lucho.
Salut, salut.
Thierry Bourguignon à ma droite.
Salut.
Et le druide Cyril Guimard pour les intimes. Bonsoir, bonsoir Cyril.
Bonsoir, bonsoir.
Alors messieurs, on va tout de suite revenir sur cette incroyable finale de cette première étape du Tour de France. Des images qu'on n'avait jamais vues. C'est une situation inédite. On va rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé. Nous sommes à 15 kilomètres de l'arrivée. Cyril, tu es dans ta tribune commentateur quand soudain, boum, on entend un boum. On se demande de quoi il s'agit.
Ça n'était pas une bombe. C'était tout simplement le bus de l'équipe Orica Green Edge. Arrivé un petit peu trop tard pour passer sur la ligne d'arrivée et qui a tout simplement accroché le portique d'arrivée là où il y a tous les outils, tous les appareils pour être pour juger l'arrivée, c'est-à-dire la photo finish et puis les capteurs de les chronos. Donc le problème, c'est que comme tout avait beaucoup bougé de place, on ne pouvait plus déplacer justement le bus. Donc a fallu le baisser, a fallu le dégonfler. Sauf que les coureurs, au moment où ça arrive, eh bien les coureurs venaient de finir leur échauffement de 200 km et entamaient les 13 derniers kilomètres. Il y avait 213 km, donc ils ont fait 200 km d'échauffement. Sauf qu'à ce moment-là, il faut prendre une décision sur la ligne d'arrivée. Et de prendre une décision dans la mesure où pour à l'instant présent on ne pouvait plus bouger le car, donc on a mis tous les moyens pour, et je crois que ça a été bien fait dans le minimum de temps, sauf que les coureurs sont à moins d'un quart d'heure de l'arrivée et qu'il faut prendre une décision.
Oui, parce que tu peux pas arrêter un peloton lancé comme ça, c'est comme un train, il faut du temps pour l'arrêter.
La horde sauvage,
la
peut-être
horde sauvage. Non mais c'est vrai, un peloton ça s'arrête pas comme ça.
Moi je veux bien que vous essayiez, vous mettez en face là, hein. Vous avez 180 rhinocéros qui arrivent ou sanglier, faites que moi je me range, hein. Ouais. Donc on essaie de faire passer le message auprès des coureurs via les oreillettes, mais alors là ça devient
une cacophonie infernale. Il faut savoir infernale. qu'en fin d'étape, lorsque le rythme hausse de ton, on n'entend pas grand chose dans les oreillettes parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le peloton.
Il y a beaucoup de bruit et puis surtout on essaye d'être le plus attentif possible parce que ça frotte énormément. Vous avez tous les sprinters qui se font emmener par leurs équipiers et puis vous avez les favoris du Tour de France qui veulent éviter d'être dans les cassures, qui veulent éviter d'être dans les chutes et qui viennent également avec leurs équipiers tout simplement rouler en tête de peloton. Donc ça va très vite, ça frotte, là il y a cette panique, l'arrivée, certains comprennent que l'arrivée est au panneau des 3 km, les autres ne comprennent rien, les directeurs sportifs doivent crier des ordres et des contre-ordres dans les oreillettes. Il y a une perte de concentration au niveau des coureurs parce que lorsqu'on a tout cela, on ne comprend pas trop. On s'interroge entre les coureurs. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, j'ai pas compris. Quoi ? T'as dit quoi ? Et là, d'un seul seul coup, ça fait boum par terre, voilà.
Ouais, ouais. Alors, cette situation n'a évidemment pas été arrangée par les ordres et les contre-ordres de la direction de course et du jury des commissaires, car dans un premier temps, voyant que la ligne d'arrivée était bouchée et qu'on ne pouvait pas faire...
Enfin, ils voyaient rien, ils étaient dans la course.
Oui, mais on leur disait ce qui se passait. Donc, le président du jury des commissaires a décidé de déplacer l'arrivée 3 km avant la ligne initiale.
Et puis, le seul endroit qui était possible pour faire une arrivée, enfin, techniquement parlant, puisque aux 3 km, vous savez que le règlement, il dit quoi? Il dit qu'à partir du moment où vous franchissez le panneau des 3 derniers kilomètres, tout incident mécanique, crevaison, je sais pas, moi, bris de chaîne ou chute, fait que vous êtes classé dans le temps du groupe auquel vous appartenez. Mais encore faut-il savoir à quel groupe vous appartenez.
Ouais, bien sûr.
Et donc, là, aux 3 km, vous avez une ligne et vous avez une sorte d'appareil qui
de
va
compteur.
Capter, de compteur, qui va capter les transpondeurs qui sont sur les vélos.
Et pour établir un classement.
Pour
arriver à savoir dans quelle position sont arrivés 190
personnes. On sait à quelle position est passé Pierre, Paul ou Jacques. Et à partir de ce moment-là, on pouvait faire un simulacre de classement. Sauf que cette ligne d'arrivée, elle était dans une chicane.
Oui,
en place, le panneau des 3 derniers kilomètres était dans une chicane.
Alors, donc, dans un premier temps, on décide de déplacer l'arrivée 3 km avant la ligne initiale. Et puis, finalement, on arrive à débloquer ce beau bus et son chauffeur qui était complètement abattu
à
son volant, on peut le comprendre. Et le président du jury des commissaires décide finalement de juger l'arrivée sur la ligne prévue.
Alors, je ne sais pas si c'est le président du jury ou si c'est Jean-François Péché qui est le directeur de l'épreuve. Car en fait, ils ne peuvent se fier... Pour prendre des décisions, ils ne peuvent se fier qu'aux informations qu'ils reçoivent de la ligne d'arrivée. Or, quand le car est débloqué, moi j'étais aux premières loges, vous savez, dans mon arbre là-haut, il est débloqué. En plus, il faut le faire débarrasser. La ligne d'arrivée, donc il faut lui ouvrir des barrières à 50 mètres de la ligne. Ouais. On arrive à le faire sortir et à ce moment on dit vous pouvez faire l'arrivée, sauf qu'on est à moins de 4 km de l'arrivée.
Le chauffeur du bus, il a été quand même costaud parce qu'il fallait faire reculer le bus.
Oui, mais enfin, il était très costaud d'aller s'emplâtrer là-dedans aussi, je pense. Hein,
c'est son métier, l'autre jour.
Voilà. A priori,
ses collègues sont passés. Donc lui, il s'est dit, moi, je passe aussi.
Puis, oui, mais il est passé en retard et l'arche était baissée.
Alors, ordre contre ordre, évidemment, ça a provoqué la panique au sein du peloton. Cyril nous le disait, une énorme chute qui a mis à terre plusieurs des grands leaders, notamment Alberto Contador, dont on reparlera tout à l'heure, et qui a provoqué l'ire, vous allez l'entendre, la colère terrible de Marc Madiot. On est habitué avec Marc, mais alors celle-là de colère, elle est quand même pas piquée des hannetons. Marc Madiot.
Ils prennent la décision de mettre la ligne d'arrivée à 3 km, pas de problème. Mais 2 km ou 3 km plus loin, on ne nous dit pas on fait sur la ligne d'arrivée. C'est n'importe quoi. Le président du jury, nous les coureurs, nous les équipes, quand on fait des conneries, on nous met des amendes. Et bien lui, il en prend une grosse. Il doit en prendre une grosse. Mais c'est le président du jury qui est le patron de la course. C'est pas l'organisateur. L'organisateur, il dit il y a un souci sur la ligne d'arrivée. On l'a vu sur les écrans. Il n'y a pas de problème. On nous dit on fait l'arrivée à 3 km. Pas de problème non plus. On fait l'arrivée à 3 bornes. Mais 3 km plus loin, on nous dit finalement on est sur la ligne d'arrivée. C'est ridicule. Le président du jury, ridicule. Ridicule.
Voilà, ça c'est fait, ça c'est envoyé, c'est du Marc Madiot dans le texte, donc ridicule. Voilà le président du jury habillé. Alors il dédouane Jean-François Pécheux, directeur de la course. On va tout de même écouter la réaction de Jean-François Pécheux donc sur cette sortie plutôt virile de
musclé.
Marc Madiot est pas content parce que Boigny a pas gagné, mais les autres non plus. Je crois que c'est la décision qui a été prise, c'est la bonne. Quand vous êtes en course, vous savez pas ce qui se passe sur la ligne d'arrivée, vous savez pas s'il y a tout le matériel. Ce sont des décisions qu'il faut prendre. La sagesse était d'arriver sur la ligne d'arrivée. On peut pas arriver sur la ligne d'arrivée, on arrive à 3 km avant. La décision, elle est difficile à prendre, elle a été prise et on bouge plus de cette décision.
Voilà, Jean-François Pécheux qui explique sa position, on peut le comprendre. Alors, est-ce que selon vous, messieurs, cette situation d'urgence a-t-elle été bien gérée par l'organisation, que ce soit l'ASO ou également le jury des commissaires? Lucho, on va peut-être commencer par toi. Toi, pour l'instant, tu dédouanes le chauffeur de bus, mais,
non, mais
l'organisation.
Ça a quand même été bien géré par ASO, parce que bon, c'était quand même la panique générale à 12 km de l'arrivée, de voir ce bus complètement bloqué sur cette ligne d'arrivée. Et il pouvait pas faire autrement que quand le bus a été dégagé, de prendre la décision de faire l'arrivée au bon endroit. Donc voilà, la décision, elle a été prise en bonne et due forme par l'organisation, par le président du jury, et je crois qu'il n'y a aucun reproche à leur faire. Après, c'est vrai que Marc n'était pas content, parce que comme le disait Jean-François Péchet tout à l'heure, Boigny a été pris dans les chutes, mais si Boigny était arrivé peut-être avec Marcel Kittel, il aurait peut-être fait sur le podium, voire gagné l'étape, peut-être que Marc se serait peut-être comporté autrement. Je pense qu'il va s'en vouloir un petit peu ce soir, Marc, il était peut-être un petit peu trop violent dans ses propos par rapport au président du jury, mais c'est vrai que des décisions comme celle d'aujourd'hui à prendre, c'était pas facile non plus pour eux.
Ouais. Thierry, toi aussi, tu penses que tout ça a été bien géré? Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est du vrai professionnalisme?
Je pense que, non, bah, sans dire amateur, professionnel, mais c'était un cas d'urgence. Je pense qu'on l'a très bien réglé, puisque il y a un moment, le bus était complètement bloqué, il fallait trouver une solution. La solution, c'était 3 km. C'est vrai qu'en voyant les 3 km, il y avait un rétrécissement et une arrivée là-bas, c'était un peu compliqué, mais c'était la seule solution technique.
Alors on sait que les coureurs ont des oreillettes, Cyril. Oreillettes. S'il n'y avait pas eu d'oreillettes là aujourd'hui, comment on aurait fait pour les faire des ordres et des contre-ordres? Comment on aurait pu faire
si ça avait été bien géré, il n'y aurait pas de polémique. Donc ça n'a pas été bien géré.
Mais non, Cyril.
Non, ça n'a pas été bien géré, puisque un, il y a eu la panique dans le peloton, il y a eu des gamelles.
Non, la panique.
Mais non, c'est pas bien géré, puisqu'il y a accident, il y a blessé.
Non, mais l'accident.
Non, mais attends.
Non, l'accident, c'est pas forcément.
Je vous ai pas coupé.
Non, non, mais attends, mais moi je vais te couper parce que t'as parlé trop longtemps avant. Avant l'incident.
Oh, bon, j'irai plus rien, là.
Avant l'incident sur la ligne d'arrivée, il faut quand même noter qu'il y avait eu des chutes avant. Donc,
oui, non,
les chutes qui sont arrivées après, c'est par la nervosité des coureurs, sachant qu'il y avait l'arrivée qui était toute proche. Voilà.
Attends,
mais il y a eu des chutes avant, Cyril. Il y a eu combien de chutes avant?
Il y en a eu trois.
C'est tout.
Oui, il y en a eu trois avant.
Il y a eu plus qu'un accrochage.
Laissez parler le druide, s'il vous plaît. Il est votre aîné, respectez son âge.
S'il vous plaît.
Le druide, à mon avis.
Non, mais attendez. Pour moi, une affaire, elle est bien gérée quand, un, il n'y a pas d'accident lié à la gestion du problème. Parce que des chutes, il y en a toujours. La grosse chute qui est, elle est liée au problème.
Bon. Non, absolument pas. Absolument pas.
La chute où est Boigny et tout ça?
Coureur qui s'écarte, qui vient percuter un deuxième.
Qui tombe en tête de peloton.
Non, c'est faux. Regardez les images.
Ah oui. Je sais pas si c'est pas Gerd Stigman.
Non, non,
je vais te dire, Cyril. Toi, organisateur du Tour de France, tu aurais pris quoi comme décision?
Il fallait neutraliser.
Toi qui es costaud,
neutraliser. Tout simplement.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit.
Messieurs, ne parlez pas tous en même temps.
Je fais l'arbitre.
Taisez-vous, monsieur Bourguignon.
À partir du moment où il y a des blessés. Parce que quand on annonce l'arrivée est au panneau des 3 km, la dernière chute où il y a tout le monde, enfin tous les gros, elle est à combien? Elle est à 4 km de l'arrivée.
À 4 km, ils avaient déjà annoncé le kilomètre.
Non, mais personne n'avait rien compris, t'as bien entendu.
Mais il y en a même qui ne savaient pas qu'on avait changé.
À partir du moment où il y a un risque, on sait qu'on ne peut pas arriver sur une d'arrivée, ce qui est pire, c'est que si on avait voulu faire un classement aux 3 derniers kilomètres, il n'était peut-être pas valable.
Vous savez qu'en matière de course automobile, je ne sais pas si Jean-Luc Roy nous écoute ou pas. Patrick Tambay, lorsqu'il y a des incidents en course, on envoie une voiture de sécurité et ce qui empêche le peloton d'aller trop vite. Est-ce que ça, c'est possible?
Oui, bien sûr que c'est possible, parce que vous avez une voiture de direction de course qui est devant le peloton. Mais à ce moment-là, la voiture, elle ralentit, vous mettez les drapeaux rouges et vous ralentissez le peloton. Et là, ça aurait été bien géré.
Et Fred, il gueule parce que ça va pas doucement, ça va pas assez vite.
Entre la décision qui a été prise de faire l'arrivée à 3 km et la deuxième décision qui a été prise de faire l'arrivée normalement, il s'est écoulé entre 5 et 10 minutes.
Mais c'était pas gérable.
Donc il fallait ralentir le peloton, voire l'arrêter pour le faire repartir.
Alors là, tu l'arrêtes et puis tu lances le peloton après avoir arrêté les gars pendant 10 minutes.
Ça évitait les chutes.
Non, les chutes font partie du paysage des premières étapes.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord, je l'ai même dit hier.
Exactement. Bon, t'as une chance inouïe.
Vous êtes en train de dire tout et son contraire. Faudrait être sérieux.
Ceci dit, tout le monde est dans le même temps. Les leaders sont à leur place.
Oui, il y a pas de différence au classement général.
Il aurait peut-être chuté quand même dans le final, parce que le final était quand même assez sinueux et tortueux.
On peut pas refaire la course.
Voilà, c'est comme ça.
On va accueillir Dominique pour voir de qui il est le plus proche, de Cyril Guimard, de Luc Leblanc ou de Thierry Bourguignon. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, la fine équipe.
Hein. Salut. Bonsoir.
Vous avez vu, ils sont remontés déjà, hein, les VPR, là. Hein.
Ouais, bah, c'est normal. Il y a des gamelles qui sont liées à cela et des blessés.
Cyril, tais-toi.
Mal géré.
Bon, laissons parler Dominique, s'il vous plaît.
Alors, je suis pas toujours d'accord avec Cyril Guimard,
mais
je dois
quand même
que ce soir, je dois me ranger, me ranger derrière lui et derrière sa voiture Pacer. Parce que, et vous parlez entre spécialistes, vous avez tous votre conviction profonde. Moi, je vais vous parler en tant que psychologue et surtout amateur de vélo qui a regardé l'étape. D'habitude, on se fait chier tous les ans à regarder des étapes insipides et on attend une arrivée improbable avec un peu de spectacle. Bon. Moi, j'ai écouté Cyril Guimard ces derniers jours qui nous annonçait quand même que l'arrivée sur Bastia, ça risquait d'être un peu chaud bouillant dans la manière où le tracé avait été fait, dans la manière où il y avait des giratoires, des épingles, etc.
Je regarde
l'étape et qu'est-ce que je vois? Je vois que tout ce qu'avait annoncé Cyril Guimard, le druide, est arrivé, c'est-à-dire qu'on a vu une suite de gamelles.
Oh, c'est pas vrai. Là, je te coupe. Oui, attends, c'est pas vrai. Je te coupe, c'est pas vrai.
Je peux finir. Je rejoins Cyril Guimard quand il dit que lorsque les coureurs ont entendu que tout avait changé, moi j'ai été coureur et je sais qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de changer tous ses pronostics, on essaye de changer tous ses plans, on essaye de prendre d'autres trajectoires pour remonter plus vite sur le peloton parce qu'on ne sait pas exactement comment va être située l'arrivée 3 km plus tôt. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend des risques pour être aux avant-postes.
C'est évident.
On provoque des chutes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'énervement dans le peloton. On voit des coureurs qui commencent à prendre des bordures et qui se payent les balustrades de sécurité. Je suis désolé.
Je rejoins totalement
l'avis de Cyril Guimard. Il y a eu de l'amateurisme au départ, enfin plutôt à l'arrivée avec l'histoire du bus, d'avoir fait redescendre le portique de avant que le bus arrive. C'était une forme d'amateurisme. Il y a eu de l'amateurisme dans les changements de stratégie 3 km avant, puis on revient en arrière. Il y a eu de l'amateurisme peut-être dans l'organisation de toute cette arrivée sur Bastia. Moi je me mets aujourd'hui à la place des coureurs qui sont tombés, qui sont blessés, ouais. Des gars qui se sont préparés pratiquement toute l'année pour arriver sur cette étape et surtout pour arriver à venir défendre leur chance sur le tour avec toutes les conditions que cela doit représenter, conditions financières, conditions d'image, etc. Et je me dis, ben merde, c'est une course d'amateurs à laquelle je suis venu participer. Vous avez beau être des spécialistes, moi en tant que spectateur, j'ai vu une course d'amateur et une arrivée d'amateur. Je suis désolé de vous le dire. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est pas ce que j'entends en dehors de ce que dit Cyril Guimard.
Très bien, voilà une position tranchée. Merci Dominique. Cyril, voilà, tu.
Non, je le remercie.
Voilà, on remercie Dominique.
Il a pas écouté hier soir
cette belle analyse. Messieurs, on va s'interrompre là. On va revenir dans quelques instants. On va parler de Contador parce que lui a été justement victime de cette chute. Il souffre de l'épaule. Est-ce que cela va hypothéquer ses chances de victoire finale? On en parle dans un instant. Mais tout de suite, on joue sur RMC.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Ce soir, nous vous offrons donc 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Quel trouble fête est venu perturber l'arrivée de l'étape du jour? Alors, si vous pensez que la bonne réponse est A, un bus, vous envoyez A par SMS au 732-16. Si vous pensez que la bonne réponse est un sanglier, vous envoyez B pour SMS au 732-16. Bonne chance. Un petit indice. Ah ben voilà, ça c'est les sangliers corses, ça fait comme ça. Allez, on se retrouve dans un instant. La chute de Contador, blessé à l'épaule, va-t-elle hypothéquer ses chances de victoire finale? On en parle dans un instant avec toute la Dream Team, vous l'avez entendu. Elle est bien remontée cette Dream Team, bien en forme, au taquet, à tout de suite.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Voilà, on va y arriver. Il est 19h33, on est sur RMC. C'est l'Intégral Sport, évidemment, spécial Tour de France à l'issue de cette première étape dont le parcours et surtout le final a été bien mouvementé. On en a parlé avec Cyril, Luc et Thierry avec vous au 32-7. N'hésitez pas si vous voulez rentrer dans la gueule de la Dream Team. Ils sont là pour ça, ils sont là pour prendre des baffes après tout. Moi, je peux pas leur en donner, ils sont trop costauds. Alors, on est évidemment, on a beaucoup parlé de cette arrivée, arrivée mouvementée qui a quand même causé pas mal de soucis et quelques bobos à déplorer. On a vu Peter Sagan dont le cuissard a été complètement arraché, on ne sait pas dans quel état il est. On a vu Nasser Bouhanni retardé, mais a priori il n'a pas été pris dans la chute. On a vu également Mark Cavendish et André Greipel qui n'ont pas réussi à rester au contact de l'avant-garde du peloton pour disputer la victoire finale. Et puis il y a des coureurs qui sont blessés, c'est le cas de Tony Martin qui est semble-t-il au bord de l'abandon. Et puis un leader a également été pris dans la chute et pas n'importe lequel, Alberto Contador, qui est arrivé retardé tout à l'heure, retardé et en plus blessé à l'épaule droite. Alberto Contador qui était très nerveux tout à l'heure à l'issue de cette étape, il l'a dit à Georges Quirino. Dans quel état se trouve-t-il? Est-ce que c'est grave, docteur? La réponse d'Alberto Contador.
Ça a été une journée très compliquée, mais le tour c'est comme ça. Des fois, tu peux éviter les chutes et des fois non, c'est une loterie. Cette fois-ci, c'est tombé sur moi. Je n'ai rien de grave, je pense. Pas de fracture, mais je suis touché au genou, à l'épaule droite, au coude gauche. Il va falloir mettre de la glace. J'espère que c'est superficiel et que je vais pouvoir récupérer. On va essayer de faire au mieux avec l'équipe pour ne pas avoir de soucis. Et j'espère que je n'aurai pas de problème sur le vélo.
Voilà, Alberto Contador, co-favori de ce Tour de France au même titre que Chris Froome. Déjà blessé à l'issue de la première étape, l'épaule, le genou, ça fait quand même lourd, même s'il ne dit qu'il ne souffre pas de fracture. La nuit portera conseil, Cyril, mais au lendemain d'une chute comme ça, quand même, on ressent la gamelle, hein, et ça peut durer plusieurs jours.
Oui, je peux confirmer. oui, non, mais bon, il y a chute et chute. Bon, est-ce que c'est une chute où il a tapé, où il a uniquement glissé.
Bon, il avait l'air de souffrir de l'épaule, hein. C'est ce que nous disait Georges Quirino
dans l'interview. Bon, attends, on va attendre de voir s'il a vraiment mal, parce que vous savez, quand on est dans la position de Contador, il est peut-être utile. Intéressant, important de montrer qu'on a peut-être une petite faiblesse quelque part. Moi, exactement. Je me méfie toujours par expérience, parce que j'ai quand même joué dans la pièce. Non, il faut voir s'il y a véritablement quelque chose. S'il est vraiment blessé, on le saura demain. Vous savez, on passe à 1100 mètres demain.
On le verra.
Puis il y a une descente très technique, très sinueuse, donc on le verra. Donc, moi, attendons de voir. Sur tous les coureurs qui sont tombés, il y en a une dizaine qui sont vraiment touchés, mais le reste, bon, ça fait partie des chutes, on va dire, banales et insignifiantes. Donc attendons avant de juger.
Malgré tout, on ne sort pas indemne d'une telle gamelle. Thierry,
non, mais c'est vrai que je pense qu'il faut voir déjà l'état des blessures, parce que si c'est simplement du vernis, bon, c'est toujours embêtant parce qu'on dort mal, mais a priori c'est pas gros des gros arrachements qu'il a eu de peau. Donc bon, après on verra bien. Il y a un ostéo, il y a des docteurs, il y a tout ce qu'il faut sur le tour. On repart assez souvent plein de hargne, et puis dans 48 heures, peut-être un peu plus, il y a peut-être des petites douleurs qui réapparaissent, mais je pense pas que ce soit le problème pour Contador. Je rejoins Cyril pour dire que on est quand même dans la plus grande pièce du monde et que les acteurs sont là pour montrer ou cacher leur faiblesse et leur.
Enfin là, il a pas fait exprès de se gameler quand
mais
même.
Non, mais il a pas fait, mais non, il profite de la chose.
Il s'en tombait. Il y en a une 25 qui tombent. Faut savoir que sur une chute où il y a 25, il y en a quand même. Il y a les 3 ou 4 premiers qui cognent.
Et après les autres.
Et derrière, les autres ont un temps de freinage, ils rentrent dans la chute et ils vont accompagner la chute. Mais ils sont pas tous blessés au point de pas prendre le départ, voire de ne pas repartir. Il y a vraiment les premiers qui tapent. Hein.
La chance qu'a Contador dans son malheur, c'est que c'est le début du tour. Donc demain, c'est pas une grosse étape de montagne, après-demain non plus. Donc il a le temps de se refaire une petite santé. Bon, il y aura le contre-la-montre par équipe à Nice. Donc ça arrive vite quand même. Mais bon,
c'est le leader de son équipe.
D'ici là, je pense qu'il aura le temps de récupérer. Et bon, dans son malheur, c'est quand même pas mal.
Ne dramatisons pas ce soir sur le cas Contador.
Ouais. On ne connaît pas l'état de ses blessures en plus. Alors c'est pour ça.
On peut pas trop s'avancer dans le.
Il a pas l'air trop fâché.
Moi, je pense pas. Oui, voilà, parce que d'ailleurs, même lui, il le dit dans l'interview.
Énervé, oui.
Dans l'interview, il dit, ça fait partie du jeu. On a un peu de chance, on n'a pas. Et puis il dit, de la glace suffira. Donc voilà.
Ce qui est terrible quand même dans cette épreuve, c'est qu'on se prépare pendant des mois, on arrive au pic de forme juste avant le départ de ce tour, et dès la première étape, tout peut être mis par terre en l'espace d'une.
C'est le jeu. Pour être champion,
pour gagner le tour, il faut avoir la condition et la chance.
Voilà. Aussi, il y en a même qui avait le maillot jusqu'au dernier jour, qui l'ont perdu pour 8 secondes.
Tu vas faire pleurer le druide.
Mais c'est encore pire
le dernier jour.
Eh oui, moi j'aime autant m'arrêter le premier jour que perdre le maillot le dernier. Voilà, c'est tout.
Donc pas de souci pour vous. Contador va pouvoir reprendre tranquillement la route et.
La bête est malade.
Il sera peut-être beaucoup plus attentif dans les prochaines étapes.
C'est pas la première fois, Cyril, qu'il est victime d'une chute dès la première étape. Je crois qu'il y a deux ans, il
arrivait au Mont des Alouettes, mais là il était absent. Il n'était pas dans la course.
L'an dernier ?
Non, il y a deux ans. Non, 2011, c'était en
2011.
Oui, enfin, il s'était fait siffler à la présentation des équipes. Il était dans une situation psychologique un peu difficile, de la faute à, pas de la faute des autres, mais de la sienne. Donc, il n'était pas dans la course. Je crois savoir qu'il n'avait pas envie de faire le tour. En plus, on lui avait un petit peu imposé. Donc là, il traînait un petit peu derrière. Il y avait un spectateur qui était un petit peu trop près sur le bord de la route. Et puis, ça avait provoqué un accrochage où il y avait donc trois coureurs qui tombaient. Une cassure, il avait perdu. Mais en plus, il s'était même pas battu d'ailleurs dans la montée du Mont des Alouettes. Il roulait même pas en tête pour rentrer. Il n'en avait rien à faire cette année-là du Tour.
Qu'est-ce que vous en dites d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez de Contador, de son état de forme, de sa velléité de victoire? Est-ce que vous le voyez je sais que dans les paris, vous n'avez pas vraiment mis dans les vainqueurs du Tour. Ou deuxième ou troisième. Toi, tu as annoncé.
Si, Contador. Moi, j'ai annoncé, mais bon.
Et tu gardes toujours.
Oui, parce qu'un sanglier blessé est un sanglier dangereux.
Oh, ça n'a jamais été un sanglier quand même.
Ah,
faire le bœuf, hein, vous savez.
Oui. Ah, elle est bonne. Elle est bonne.
Bon,
le bœuf espagnol.
Le bœuf espagnol, mais oui.
Concernant Contador, vous allez dire que je l'aime pas, ce qui est en partie vrai, parce que j'aime pas les gens qui mentent.
Tu t'aimes pas,
Cyril.
Tu t'aimes pas.
Monsieur Bourguignon, je vous en prie, je suis en paix avec ma conscience.
C'est vrai en plus, parce que tout à l'heure il nous disait, j'ai joué dans la pièce, je sais très bien qu'on raconte des bêtises.
Non, j'ai joué dans la pièce qu'ayant été longtemps directeur sportif, j'ai vu le jeu que jouaient les coureurs.
Oh.
Moi, quand j'ai eu mal au genou, j'ai abandonné le Tour, à 48 heures de l'arrivée.
C'est il y a un moment, t'as pas joué à la comédie.
Non, mais si vous regardez bien les performances sur le Tour de Contador depuis deux ans, il n'influe pas sur la course. Que ce soit l'an dernier ou l'année d'avant, il y a même des tours qu'il a pas fait. Mais il n'a pas eu d'influence sur le Tour depuis qu'il a été pris au contrôle.
Ah oui, oui.
Mais attends,
il s'est passé du temps.
On verra en tout cas ce que nous dit Alberto Contador dans les heures qui viennent.
Les paris maintenant.
Ça va. L'autre il fait son malin.
Pour une fois, tout le monde est tombé.
Ah, tiens, Michael nous appelle des Landes. Il voulait intervenir justement à propos d'Alberto Contador. Salut Michael.
Ouais, salut.
Bon, alors,
impeccable.
Ça va pas.
Et toi?
Ouais, impeccable. Ouais,
ça va,
ouais. Du moment que c'est pas
un
Français qui est tombé, tout va bien, quoi.
Ah, ben,
si,
Boigny
est tombé.
Il y a plusieurs Français qui ont chuté.
Ouais, c'est vrai.
Boigny est pris dans la chute, mais il est pas tombé, il est arrêté, c'est tout.
Il a été bloqué.
Il y avait plusieurs coureurs de la Française qui étaient dedans.
Non, mais on peut pas se satisfaire de ça.
Bon, Michael, que veux-tu me dire?
Quand je vois votre humour, là, sur Contador, je me dis que ouais, quoi. Enfin, que vous êtes finalement pas trop déçus qu'ils soient tombés, quoi.
Ah non, pas non.
Et moi, je le donne gagnant. Je donne gagnant du Tour.
Ah, alors moi, j'ai mis dans les trois premiers du Tour. J'ai pas envie qu'il tombe, moi.
Ah non, personne n'a envie qu'il se fasse mal. Sinon, si on assiste à un cavalier seul de Chris Froome, on va sérieusement s'ennuyer pendant le Tour. Donc, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne soit pas blessé et qu'il soit en état de disputer la victoire.
Ce que l'on dit, ou moi, ce que je dis, c'est que pour l'instant, ne dramatisons pas les conséquences de la chute. En ce qui concerne Contador, comme d'autres d'ailleurs, c'est tout. Mais on n'est pas encore dans les Pyrénées.
Donc, si je comprends bien, dopé ou pas, vous préférez avoir du spectacle?
On n'a pas parlé de ça là. On parle de la chute de Contador et on a dit que Contador, il fallait pas dramatiser.
Non, j'ai dit que depuis son contrôle, il n'a jamais influé sur le Tour de France.
C'est vrai, c'est tout.
Pas tous. Il y en a qui arrivent à marcher après encore.
Oui.
Mais enfin, pas. En principe, pas trop.
Ouais, voilà. Donc, si je comprends bien, si je suis ton raisonnement, les gars, ils marchent aussi fort après. Ils sont
encore
sodopés, alors.
Non, faut pas dire n'importe quoi. Ceux qui se font prendre, ça permet à d'autres coureurs de pas se faire prendre et de retirer un peu ce qu'ils mettaient. Donc, c'est le niveau qui baisse, hein.
Bon, en tous les cas, on est obligé de s'interrompre. Merci en tous les cas à Michael. En tous les cas, il est remonté, Michael. Hein. Vous l'avez énervé, là, sur Contador. On touche pas à Contador. Mais nous, on voudrait qu'il soit en forme, Contador. On n'a pas envie qu'il soit blessé. Loin de là. cette idée. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'intégral sport. Tiens, il n'a pas écouté tes conseils, notre ami Jean-Jacques Lozach, sénateur et rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale, puisqu'il a opposé une fin de non-recevoir aux représentants du peloton. Je dis simplement qu'on nous laisse tranquille en estimant complètement déplacer toute ingérence dans les travaux d'une commission d'enquête parlementaire, quelle qu'elle soit. Donc, le législatif a décidé de ne pas écouter les coureurs. Il y aura donc la révélation de la liste.
Pouvait-il faire autrement ? Il n'a pas dit ça non plus.
Allez, on se retourne dans un instant pour la suite. On va parier, on va revenir sur la victoire aujourd'hui de Kittel et puis s'intéresser à l'étape de demain. C'est dans un instant dans l'intégral sport. À tout de suite.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Et oui, l'Intégral Sport qui se poursuit jusqu'à 20h30. Dans quelques minutes, Virginie Fulpin prendra le relais avec vous. Évidemment, au 32-16, venez vous poser vos questions à toute la Dream Team qui se fera un plaisir de vous y répondre. Surtout si vous leur rentrez un peu dedans, ils adorent ça. Alors, on va dans quelques instants parier et revenir sur les paris du jour. Et puis, avant cela, on va quand même s'intéresser à Marcel Kittel. Donc, vainqueur de cette première étape. Lui a su déjouer les pièges, les bus qui se mettent en travers des arches, les chutes qui interviennent à quelques kilomètres de l'arrivée pour faire un coup double ou même un coup triple ou peut-être même quadruple, puisque Marcel Kittel a non seulement remporté l'étape, il s'est emparé du maillot jaune, du maillot vert et du maillot blanc de meilleur jeune. C'est un jour de chance et un jour béni pour le jeune Allemand de la formation Argo Shimano, Luc. Sacré coureur quand même que ce Marcel Kittel, qui t'a aujourd'hui valu eh bien d'être en tête de l'équipe des parieurs. On va parier tout de suite.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Voilà, Benji, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Si tu avais
bonsoir,
vu la joie,
Benji.
La joie de Luc Leblanc tout à l'heure lorsque Kittel est passé sur la ligne d'arrivée, il a failli défoncer le plafond de notre petit camion tellement il était déchaîné. En tous les cas, c'est un beau coup réalisé par Luc, tout comme Marcel Kittel. Hein.
Oui, bien joué. Pour ceux qui doutent de ce prono de Luc, on va quand même rapidement réécouter.
Mais je vais miser sur Marcel Kittel.
D'accord. Donc on enregistre bien Marcel Kittel pour notre ami Lucho.
Un jour ou l'autre, je vais vous niquer, comme on dit.
C'est Luc Leblanc.
Ce jour est arrivé.
Ça dure qu'un jour. Hein. Ça dure qu'un jour.
Ouais, le tour ne fait que débuter.
Oui, enfin bon, moi je suis désolé. Il se réjouit que Kittel ait gagné, alors que tous les adversaires de Kittel sont allés à terre.
Oui, non, mais attends. Donc, arrête un peu parce que moi j'ai dit hier. Dans un final comme celui d'aujourd'hui, première étape du Tour. Il allait se passer des choses. Il y a toujours des chutes. Et j'avais dit que Cavendish, de toute façon, les premiers jours du Tour, il passe toujours au travers. Et voilà. Vous n'écoutez pas. Alors, Cyril, s'il te plaît. Hein.
Bon, alors, du coup, Benji, il prend combien au classement général? Là, on est complètement largué.
Là, il part d'entrée. Il fait une échappée, Lucho, puisqu'il gagne 60 euros de bénéfice. Oh. Bon, ça, c'est une chose, mais il prend aussi les 10 points. Donc, maillot vert et maillot jaune pour Luc Leblanc. Le maillot blanc, on le rappelle, étant déjà attribué et c'est terminé pour Georges Quirino. Ça sera comme ça à Paris.
Ça fait combien d'avance sur eux alors?
60 euros.
Hein, 60 euros pour le maillot jaune et 1000 points d'avance sur le maillot vert.
Ah ouais, 1000 points, c'est quand même pas mal.
Non, mais 1000 points, demain il les perd.
Je peux me reposer pendant quelques jours maintenant.
Non, pendant 3 semaines.
Maintenant tu vas pouvoir suivre.
Comme d'habitude, pendant 3 semaines, tu n'existes plus.
Tu vas pouvoir sucer la roue pendant 3 semaines. Tant que c'est la roue, ça va. Cyril, un petit mot concernant Marcel Kittel quand même. Sacré coureur que ce Marcel Kittel. 25 ans, on le rappelle, c'est un tout jeune coureur, mais avec un palmarès déjà très très bien rempli. Hein.
Bien, un palmarès, oui, parce que il n'est pas très connu en France, mais si on regarde son palmarès, c'est quand même. D'abord, avant d'être sprinter, il était rouleur. Car il a quand même été deux fois champion du monde du contre-la-montre junior, c'est en junior 1 et en junior 2. Il a été champion d'Europe sur route en ligne, quatrième du championnat d'Europe en 2009, donc espoir. Donc au départ, ça n'était pas un sprinter, c'était tout simplement un monsieur qui jouait les Cancellara. Puis progressivement, il s'est mis au sprint et sur ces trois dernières années, il a gagné la bagatelle de 42 courses, puisque cette année, il est déjà rendu à 12 victoires. L'an dernier, il a remporté 15 victoires. Et l'année précédente, 15 victoires, dont 4 étapes des 4 jours de Dunkerque.
Ouais, c'est quand même pas mal. Il est de la même veine qu'un Cavendish, qu'un Greipel. À terme, ce sera vraiment le même niveau.
D'ailleurs,
il a déjà battu.
D'ailleurs, Cavendish a vu sa roue arrière il y a pas très longtemps au Grand Prix de Lescot, qui est une course qui arrive toujours au sprint. Et il s'est imposé devant Cavendish. C'était d'ailleurs la deuxième fois qu'il remportait le Grand Prix de Lescot.
Alors, va-t-il pouvoir conserver son maillot jaune demain à l'issue de la deuxième étape? Cette deuxième étape, elle est quand même beaucoup plus sérieuse pour les sprinteurs que celle d'aujourd'hui, parce que ça va monter demain, Cyril, avec un col situé quand même dont le sommet sera situé à 60 km de l'arrivée. Donc, ce sera peut-être...
C'est
les sprinteurs, à mon avis, ne rentreront pas.
D'accord.
Ne rentreront pas parce que l'étape ne fait que 156 km. Alors, c'est vrai que la dernière difficulté se situe à 60 km de l'arrivée. Mais il faut dire qu'on a 40 km d'ascension pour traverser la Corse dans le sens de la largeur. Et ça m'étonnerait s'il y a une vraie course demain. Ouais. Les sprinteurs ne peuvent pas passer, à l'exception
de Peter Sagan. Mais dans quel état sera-t-il demain,
hein? À mon avis, il est peut-être plus touché qu'on ne le pense.
Voilà. D'autant qu'il y aura en plus une dernière côte, troisième catégorie, la côte du Salario, qui sera située à quelques kilomètres de l'arrivée.
Un peu plus 8% quand même.
C'est sévère. Donc
9%, une borne à 9%.
Ce qui veut dire que vous ne voyez pas demain.
Cavendish, non.
Éliminons les sprinteurs demain.
D'accord. Donc, pas de victoire pour les sprinteurs demain. Plus de maillot jaune sur les épaules de Kittel. Maintenant, reste à savoir qui va remporter cette étape. On va donner les cotes avec notre ami Benji, qui va nous aiguiller un petit peu. Parce que là, maintenant, tu vas voir, Lucho va être tranquille. Il va plus donner des résultats complètement abracadabrantesques.
Benji.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur Peter Sagan, parce qu'il est largement favori de cette étape. 2,40 pour Sagan. Deuxième, c'est marrant, vous venez d'en parler, Cavendish à 8,50. Deuxième favori, bizarrement, de cette étape, devant Boasson-Hagen, qui est à 18. Allez, je vais mettre une petite pièce, moi, sur Philippe Gilbert, parce que la cote est à 20.
C'est impressionnant. Donc, d'après les paris, ça arrive au sprint.
Ah bah oui, les parieurs pensent
ça. Les parieurs ne connaissent pas obligatoirement la Corse.
Les coteurs,
ceux qui donnent les côtes.
On traverse l'intérieur de la Corse.
Ouais,
comme dit Cyril, on monte en 100 mètres. Ouais. Et c'est pas facile.
Alors, on va commencer évidemment par le leader du classement général qui va nous donner son vainqueur d'étape de demain, Lucho. Comme ça, maintenant que t'es leader, on va pouvoir se mettre dans ta roue, prendre l'aspiration. C'est comme ça que ça se passe.
Il faut assumer la course maintenant, mon gars. Il y a deux solutions. La course peut se faire.
Sachant que tu ne peux pas changer.
Oui, non, mais bien sûr. Mais j'ai jamais changé. La course peut se faire dans le col de deuxième catégorie. Bon, bien sûr, il est difficile. C'est à 60 km de l'arrivée. Mais est-ce que les coureurs vont faire la course dans le col de deuxième catégorie?
Et moi, j'ai envie d'échapper.
Il peut y avoir une échappée, mais les leaders et tout vont se regarder. Oui. Tout ça, ça risque pas d'exploser et ça risque de basculer. Avec de nombreux coureurs. Donc, je ne veux pas prendre de risque demain parce que je la joue fine. Je vais quand même jouer Peter Sagan.
Ah, d'accord. On a bien compris la tactique. Cyril, il nous reste quelques secondes.
Moi, je vais jouer Boasson-Hagen.
Boasson-Hagen.
Il a joué tous les jours les
derniers. Il y a un coup qui part de très loin et qui va au bout. Alors, avec John Gadret.
Très bien. Eh ben moi je vais donner Sylvain Chavanel demain
Bon choix.
Voilà.
Benji voir Arthur Vichot aussi.
Ouais, Arthur Vichot avec le maillot.
Mais attends, tu vas pas changer le tricolore.
Non, ça y est, t'as donné ton truc.
Non, j'ai donné mon truc.
Bien sûr,
j'assume.
Très bien. Benji, tu donnes qui toi?
J'ai dit Philippe Gilbert.
Alors,
pour les cotes, Bourgui, très intéressant, puisque c'est 200 pour John Gadret, et toi, c'est 100 pour Chavanel. Donc, demain, il peut y avoir un changement de maillot jaune. Il ne faut pas rêver.
Tiens, et si on demandait à Virginie Fulpin qui elle voit demain vainqueur d'étape?
Un Anglais, forcément.
Un Anglais, bah ouais.
Après ma déception Cavendish, c'est compliqué. Je vais dire Chavanel.
On va faire alliance tous les deux. On va monter le col ensemble.
C'était ça le but, en fait.
En fait, vous avez tous oublié un coureur.
Ah, ben toi aussi, tu l'as oublié.
Vauclair.
Oui, il vaut clair.
Pas encore.
Messieurs, vous êtes trop bavards, c'est au tour de la demoiselle de parler. Virginie qui va donc prendre le relais, Virginie. Même si vous allez rester avec Virginie, ils vont rester avec
Hein. Christophe, je te pique deux membres de la Dream Team RMC Sport quand même, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, vous êtes prêts? Parce que les auditeurs nous attendent au 32-16, ils ont plein de questions à vous poser, ils ont des réactions après cette étape un peu rocambolesque, on va dire. Et puis on vous attend aussi sur Twitter avec le hashtag RMC Tour, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions, à tout de suite.
À tout de suite avec Virginie, évidemment, la suite de l'intégral tour. Moi, je vous retrouve demain avec toute l'équipe à partir de 16h, juste après le Grand Prix de Formule 1. À demain.